Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. Aujourd'hui, je vais commencer avec une question. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution copernicienne? Qu'est-ce que c'est qu'une révolution copernicienne? Avez-vous entendu cette expression? Afin de mieux comprendre cette expression dans le cadre de notre étude aujourd'hui, commençons avec un peu d'histoire. Nicolas Copernic, né en Prusse royale en 1473, est célèbre pour avoir développé et défendu la théorie de l'héliocentrisme, selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l'univers et la Terre tourne autour de lui, contre la croyance répandue que cette dernière était centrale et immobile. Les conséquences de cette théorie dans le changement profond des points de vue scientifiques, philosophiques et religieux qu'elles imposent sont baptisées une révolution copernicienne. Depuis l'âge de Copernic, Kepler, Galilée, on peut dire qu'il y a eu lieu d'autres révolutions coperniciennes. Celles-ci ne sont pas uniquement liées à l'astronomie. L'expression « révolution copernicienne » n'a vraiment de sens qu'employé dans son contexte historique. Il est pourtant devenu l'usage courant de l'employer de manière métaphorique dans des contextes contemporains, notamment pour justifier des changements de perspective dans une discipline donnée, en particulier dans le domaine scientifique. Par exemple, la révolution copernicienne est une analogie utilisée par le philosophe Immanuel Kant dans La critique de la raison pure, son œuvre majeure. Donc, les révolutions coperniciennes peuvent représenter une transformation de la façon que nous comprenons quelque chose en général, que ce soit le monde, que ce soit une personne, une idée, nous-mêmes. Elle souligne en fait le fait qu'il y a des pensées qui sont liées à d'autres pensées, des idées qui sont liées à d'autres idées, des compréhensions qui sont liées à d'autres compréhensions, et que des fois, une compréhension meilleure, ici ou là, peut tout changer, et peut changer, bien sûr, les conclusions. Cela me fait penser un peu à Ésaïe, chapitre 28, et le verset 13. Ésaïe, chapitre 28, verset 13. Quand il s'agit de la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, la Bible, la parole de Dieu est remplie de préceptes, remplie de règles, des compréhensions. Mais c'est à nous d'aller les chercher, et c'est aussi à Dieu à nous appeler à comprendre ses préceptes. De toute façon, la Bible est un abîme de science. Verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Nous avons l'impression, en lisant le verset 13 d'Ésaïe 28, de construire une compréhension, petit à petit, brique par brique. Par inspiration divine, il y a des principes, des préceptes et des lois dans la Bible qui peuvent transformer notre façon de comprendre le monde, notre compréhension de la vie, de notre but, du but de la vie, et Dieu lui-même. Par exemple, la Bible nous instruit que c'est le Père qui nous a appelés. Reportons-nous à l'Évangile de Jean, chapitre 6. Souvent, il y a des gens qui croient que c'est nous qui appelons les autres. C'est la partie, le processus d'évangélisation. Et des fois, on peut perdre vraiment la compréhension de qui vraiment appelle ceux qui sont convertis. L'apôtre Jean, en Jean chapitre 6, nous révèle qu'il y avait une foule qui suivait Jésus et ses disciples après la multiplication des pains. Il y avait des gens qui cherchaient à l'entendre, mais d'autres qui cherchaient plutôt à la nourriture physique. Une fois arrivé à Capernaum, il murmurait quand Jésus parlait de son Père et du pain de vie. Lisons Jean 6, verset 43. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Notons le verset suivant. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » On sent que c'était important à Jésus d'indiquer l'importance du Père avant de parler de lui-même. Ce rappel a été souligné plusieurs fois dans la Bible, dans les évangiles. Mais plus loin, au verset 53, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » On peut imaginer que c'était impossible à comprendre pleinement la signification de ces images avant l'institution de la Pâque du Nouveau Testament. Néanmoins, nous observons ici une sorte de révolution copernicienne dans la façon de comprendre Jésus et son ministère. Nous voyons encore une fois, au verset 57, que Jésus a pris le soin de les appeler, qu'il avait été envoyé, de les rappeler qu'il avait été envoyé par le Père. Verset 57. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Donc, avec cette nouvelle instruction, Jésus fait un rappel que c'est le Père qui l'a envoyé. Il ne voulait pas que ses disciples perdent le fil de l'histoire. Et puis, il continue son explication de pourquoi il se compare au pain. Verset 58. « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Et puis au verset 60. « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Les révolutions coperniciennes ne sont pas toujours faciles à accepter. Si on compare une perspective du monde à une maison, une révolution copernicienne dans la perspective du monde, c'est comme si on enlevait les fondations de la maison. Cette difficulté à changer de perspective est apparente dans les versets que nous venons de lire. Même pour les disciples, vu que nous avons établi une bonne conception de ce que c'est une révolution copernicienne, passons maintenant à notre sujet principal d'aujourd'hui. Il s'agit d'un autre exemple d'un changement de perspective des disciples de Jésus-Christ. Examinons aujourd'hui l'institution de la cérémonie du lavement des pieds. Le lavement des pieds représente une révolution copernicienne. Par l'institution du lavement des pieds et l'instruction de Jésus-Christ que nous allons examiner aujourd'hui, les disciples ont vécu un changement dans la compréhension de Jésus-Christ, son ministère, son rôle et leur rôle aussi. Examinons aujourd'hui la signification de cette cérémonie du lavement des pieds. Ensuite, examinons trois leçons de cette ordonnance. Nous arriverons bientôt à la Pâque et la fête des pains sans levain. J'espère que ce sermon nous aidera tous dans notre préparation individuelle pour la Pâque. D'abord, prenons quelques pas en arrière pour mieux comprendre le contexte de cette cérémonie. Reportons-nous à l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc est chapitre 22. L'Évangile de Luc, chapitre 22. Et le verset 24. Luc 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? L'harmonie des évangiles de Robertson indique que cet événement a eu lieu peu de temps avant la Pâque. On peut imaginer qu'il y avait une certaine tension entre les disciples, une frustration. Il y avait de la pression qui a fait qu'ils avaient la tendance à disputer entre eux. Jésus a aperçu que ses disciples avaient besoin d'un rappel de l'essentiel. Pour ce faire, il leur a présenté un contraste entre le comportement des pouvoirs en place et leur époque, et ceux qui recevront le pouvoir au royaume de Dieu. Verset 25. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Je trouve intéressant le fait que Jésus était en train de préparer ses disciples pour gouverner. Il était en train de préparer ses disciples pour gouverner, pour leur futur, pour leur avenir, pour les rôles qu'ils joueraient dans l'avenir. Passons au verset 27. « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Je trouve intéressant ici le fait que Jésus a employé cet exemple peu de temps avant la Pâque du Nouveau Testament. Les disputes entre les disciples ont démontré un certain manque d'humilité. Alors qu'ils allaient passer à table ensemble pour la Pâque. Dans les évangiles, Jésus parle d'humilité plusieurs fois en relation au royaume de Dieu. Reportons-nous maintenant à l'évangile de Matthieu. Chapitre 18, Matthieu 18 et le verset 12, Matthieu 18, pardon, le verset 2, Matthieu 18, 2, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Encore une fois, nous voyons qu'il faut qu'on soit humble comme un enfant. C'est un peu à l'inverse de la puissance d'un gouverneur, et le pouvoir de quelqu'un qui a une position de responsabilité. Mais c'est l'instruction de Jésus qui est une révolution copernicienne. Continuons maintenant dans l'évangile de Matthieu, mais passons au chapitre 23. Chapitre 23, ou encore un exemple de cet inversement du monde. Matthieu chapitre 23 et le verset 12. Et en lisant ce verset, on peut se demander, est-ce que c'est plus facile à s'humilier ou est-ce que c'est plus facile d'être humilié? Je crois que nous savons, nous connaissons la réponse. Il est plus facile à s'humilier, au moins ça fait moins mal quand on s'humilie nous-mêmes que quand on est obligé d'être humilié. Maintenant lisons le verset 12. « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Encore une fois, nous voyons cet inversement de compréhension, cet inversement d'approche à ce processus d'être élevé, ou d'avoir la gloire ou la responsabilité. Plus tard, l'apôtre Paul rappelle aux Romains l'importance de l'humilité. Reportons-nous en Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et le verset 3. Nous allons revenir tout à l'heure à ce passage, mais avant d'aller plus loin, gardons en tête le fait que l'apôtre Paul a fait ce rappel, a donné un rappel aux Romains dans le premier siècle de cette attitude, de cet état d'esprit qui était un esprit humble. Romains verset 3. Et ici, il s'agit de l'opinion de soi, l'opinion de soi-même. Si notre opinion de nous-mêmes est haute, comment voyons-nous les autres? Le problème devient de plus en plus grave. Maintenant, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc un bon rappel ici, que pour servir, en général, pour servir, il ne faut pas garder une opinion trop haute de soi-même. Est-il plus facile à s'humilier devant Dieu que de s'humilier devant un frère dans l'Église? Paul s'inquiète aux relations entre les frères et sœurs de l'Église du premier siècle. Des fois, on peut imaginer que il y a quelqu'un qui a peut-être une opinion assez élevée de lui-même, mais donc cette personne peut, avec pas beaucoup de mal, s'humilier devant Dieu. Mais quand il est question de s'humilier devant les autres, devant ceux qui sont dans son entourage, ceux qui sont les frères et sœurs de l'Église, c'est tout à fait une autre question. Mais Paul est concerné, il s'inquiète aux relations entre les frères et sœurs, et il sait que c'est l'attitude, l'état d'esprit qui joue un grand rôle dans ce liaison. Dans ces relations. Alors, reportons-nous à l'évangile de Jean, chapitre 13. En effet, nous voyons ici l'histoire d'une révolution copernicienne préservée pour nous tous. Jean, chapitre 13. Jésus, dans un acte de service, de servitude, s'humilie pour montrer l'exemple et pour instruire après ses disciples. Il fait un acte physique et puis il donne une leçon spirituelle. Jean chapitre 13. Nous voyons ici que l'apôtre Jean a préservé un récit détaillé de cette soirée. C'est un peu comme un journal intime. À mon avis, les descriptions et le dialogue me font penser que Jean ne voulait pas oublier un iota de détails de cette soirée historique. Nous avons tous des jours que nous voudrions garder en mémoire avec tous les petits détails, par exemple le jour de la naissance de son enfant, ou le jour de son mariage, etc. Donc, il y a beaucoup de détails ici. dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Commençons avec le verset 1, qui fait le cadre de ce chapitre. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Les sujets dans ces quelques versets sont nombreux. Nous n'allons pas les traiter tous en détail aujourd'hui. Avons-nous imaginé ce que s'est passé en tête? Avons-nous l'image de ce qui s'est passé en tête? Comment imaginons-nous la salle et les disciples à table? Avez-vous pensé à un chef-d'œuvre de Leonardo da Vinci, la scène? Nous avons peut-être pensé à ce tableau. Il est fort possible que beaucoup de détails représentés par da Vinci ne sont pas justes. La table probablement trop haute, la façon de s'asseoir à table au lieu de s'allonger est probablement incorrecte. Les cheveux trop longs, etc. Mais une chose que da Vinci a représentée qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dispute entre les disciples. La Bible ne nous indique pas si cette dispute était en cours autour de table, mais d'après ce que nous avons lu tout à l'heure en Luc 22, les disciples avaient disputé entre eux peu avant la Pâque. Continuons maintenant au verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont ils étaient saints. Jésus a pris la forme d'un serviteur. Il a enlevé ses vêtements extérieurs qui symbolisent un certain pouvoir de position. Il avait besoin de s'abaisser pour laver les pieds des disciples. Donc il s'abaissait par la coutume de laver les pieds des invités est assez connue par des historiens de l'époque, les historiens qui étudient l'époque. D'après le nouveau dictionnaire biblique illustré, dans la société antique, c'était les gens aisés qui portaient quelque chose aux pieds, et comme ils mettaient généralement des sandales, il fallait laver les pieds en arrivant dans une maison à cause de la poussière qui s'y était attachée. On rendait hommage à son invité en lui offrant l'occasion de se laver les pieds. L'esclave de la classe la plus basse avait la charge de déchausser l'hôte et de lui présenter de l'eau, ou de laver ses pieds. La chaleur et les vents brûlants, desséchant la peau et les cheveux, on lui offrait également de l'huile parfumée. Fin de citation. Chez Simon le pharisien, Jésus a été invité à manger avec lui. Chez Simon le pharisien, Luc chapitre 7, reportons-nous à l'évangile de Luc, chapitre 7, pour voir un exemple de cette coutume. Luc, chapitre 7, et le verset 37. Jésus avait été invité chez Simon le pharisien. Verset 37, Luc, chapitre 7, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'alabâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Vous voyez, il y a Il y a un besoin de s'abaisser par terre pour arriver à laver les pieds de quelqu'un. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baissa et les oignit de parfum. Un peu plus tard, Jésus parle à Simon, non pas la femme, mais à Simon, en disant, au verset 46, « Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » On voit que l'état d'esprit de Simon était en question plus que la coutume. Mais le non-respect de la coutume a démontré qu'il y avait un problème. Nous voyons que Jésus avait noté le non-respect de la coutume. Nous revenons maintenant à Jean chapitre 13, pour continuer cette histoire. Nous imaginons que Pierre avait regardé avec surprise quand Jésus avait commencé à laver les pieds de ses disciples. À son tour, Pierre a réagi d'après sa manière de parler franchement. Jean 13 et verset 6. Il vint donc à Simon Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Il se demande, « Pourquoi tu me laves les pieds ?» Mais en fait, Jésus savait que ses disciples n'avaient pas encore vu sa souffrance. Il n'avait pas encore compris jusqu'à quel point il allait souffrir. Le verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Nous avons besoin d'être lavés, n'est-ce pas? Lavés par Jésus-Christ, servis par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas lavés, nous ne sommes pas purs, et nous ne pouvons pas recevoir le don du Saint-Esprit. Donc Pierre a changé d'avis. Au verset 9, nous voyons ce changement très important, ce changement assez dramatique. Ça me fait penser à Matthieu 14, quand Pierre saute du bateau. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur, mais non pas tous. » Après avoir montré l'exemple, il se remit à table et il renforce l'acte physique avec une leçon spirituelle. L'objectif de cette leçon n'était pas de toujours garder les pieds propres, mais c'était quand même une leçon spirituelle. Au verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Le but de Jésus n'était pas seulement de résoudre un dispute entre ses disciples. Son but était bien plus important que cela. Il voulait une révolution copernicienne dans la pensée de ses disciples. Il voulait illustrer sa volonté de servir. Il voulait encourager ses disciples d'avoir cette même volonté de servir les uns les autres. Donc examinons trois leçons que nous pouvons apprendre de cette ordonnance, le lavement des pieds. Une première leçon, la cérémonie du lavement des pieds nous rappelle que nous avons besoin de nous revêtir de l'humilité de Jésus-Christ. Romains chapitre 13. Cette cérémonie nous rappelle que nous avons besoin de nous revêtir de l'humilité de Jésus-Christ. Romains chapitre 13 et le verset 13. L'apôtre Paul indique ici, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » L'idée de se revêtir implique un changement de comportement et aussi un changement de la pensée. Notre objectif, c'est de développer la pensée de Jésus. La pensée, les pratiques, les habitudes, la façon de raisonner de Jésus. Continuons avec l'apôtre Paul, mais passons maintenant à 1 Corinthiens, chapitre 2. C'était quand même une attitude, un état d'esprit d'humilité que le monde ne connaissait pas vraiment avant Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 16. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Donc la pensée de Christ, la façon de raisonner, les habitudes au niveau des pensées. Est-ce que nous considérons les mêmes besoins chez les autres que Jésus considérait? 1 Pierre chapitre 1 et verset 13. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 13. L'idée de se revêtir. 1 Pierre 1 et verset 13. « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'obéissance fait partie de cet état d'esprit d'humilité. La façon de se revêtir de l'humilité implique aussi l'obéissance. Jean chapitre 13, nous nous rappelons le verset 17, pourvu que vous les pratiquiez. Le fait de mettre en pratique cette attitude, cet état d'esprit, ce comportement, est très important. Ce n'est pas seulement des pensées, des réflexions, des choses qui sont un peu passives ou passives, mais le christianisme, c'est quand même des actions, c'est rempli d'actions. 1 Jean, chapitre 2, maintenant. Nous avons besoin d'imiter Jésus-Christ pour apprendre l'humilité, pour apprendre à le suivre. 1 Jean chapitre 2, c'est intéressant ici qu'il nous parle comme des enfants, c'est l'apôtre Jean qui écrit, mais nous sommes quand même dans un temps de l'Église du Nouveau Testament, un temps assez difficile, et l'apôtre Jean écrit à ceux qui ont suivi, ceux qui ont poursuivi, persévéré, beaucoup de persécutions, Et il les écrit dans une manière qui est un peu encourageant et qui réconforte ces personnes. Donc 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est bien de se rappeler que la mort de Jésus-Christ était nécessaire pour payer l'amende des péchés pour le monde entier. Ça nous donne une perspective un peu différente, une perspective qui prend compte du fait que le monde entier a besoin d'être sauvé de ce chemin qui mène à la mort. Continuons en verset 3. Si nous gardons ses commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc encore une fois, l'imitation, la mise en action, la mise en pratique, et la façon de raisonner aussi, les pensées qui vont avec. C'est une attitude, c'est un état d'esprit pur. Voilà l'importance de l'humilité. Le lavement des pieds nous donne l'occasion de nous abaisser, en imitant Jésus-Christ. Le fait de nous abaisser change littéralement notre perspective, n'est-ce pas? Le mot « humilité » vient du mot latin « humus », qui veut dire « la terre ». En s'abaissant, nous ne sommes plus capables de regarder de haut les autres. Nous sommes à terre, nous sommes par terre. Nous sommes abaissés. Passons maintenant à une deuxième leçon. L'humilité soulignée par la cérémonie du lavement des pieds fortifie l'Église. Il y a quand même un objectif de fortifier les disciples, de fortifier l'Église, le futur Église, dans l'Évangile de Jean, Jésus préparait son Église. Nous avons lu Jean 13 et verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » L'expression « les uns aux autres » nous rappelle des liens qui existent entre les frères et sœurs de l'Église. Ces liens sont soulignés par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 7, commençons avec le verset 7. « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il faut se rappeler que tout le monde n'a pas tous les dons. Mais de l'autre côté, chacun a un don. Il est important de se connaître. Il est important de reconnaître les qualités, les point fort de chacun d'entre nous dans l'Église. Considérons les dons de l'autrui de nos frères et sœurs de l'Église. Considérons les uns les autres avec l'amour, avec le respect. Passons maintenant au verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Pourquoi faire une liste de tous ces dons? Les versets 7 à 11. Au moins, une raison serait que nous avons besoin de reconnaître la diversité qui existe dans l'Église. Nous ne sommes pas tous pareils. Et même dans notre façon de servir dans l'Église, nous n'avons pas tous le même talent, les mêmes dons pour servir. Mais en travaillant ensemble, nous accomplissons quelque chose, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Dans cette manière, nous pouvons comprendre comment le lavement des pieds assiste au bon fonctionnement de l'Église. D'avoir cet état d'esprit d'humilité. L'apôtre Paul déclare que tous les membres du corps doivent fonctionner ensemble, en dépit de leurs différents rôles et qualités. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Continuons cette discussion de la fortification de l'Église. Romains chapitre 12 et verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne voir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Voilà les liens qui sont établis dans l'Église, avec l'aide de Dieu, par la puissance de son Esprit. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fosse avec liberté. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. L'idée ici, c'est de se concentrer sur nos efforts à servir. Et en se concentrant sur nos efforts à servir, nous allons oublier les petites astuces, les petits détails qui nous embêtent peut-être. Si nous ne sommes pas impliqués dans l'œuvre, si nous ne nous sommes pas impliqués dans la poursuite de la justice, si nous ne sommes pas bien focalisés sur le royaume à venir. Gardons un état d'esprit d'humilité envers les frères et sœurs de l'Église. Cherchons pendant toute l'année, pas seulement pendant la Pâque, mais cherchons pendant toute l'année à servir les uns les autres. Si notre opinion de nous-mêmes est juste, nous pouvons mieux servir dans l'Église. Nous pourrons servir dans une manière plus efficace. Si notre opinion de nous-mêmes est trop élevée, nous risquons de dédaigner les autres et de ne plus être efficaces. Nous risquons de ne plus être contents
avec les opportunités devant nous pour servir les uns les autres. Nous devons peut-être plus fermés, plus froids, et nous pouvons nous distancer de l'assemblée, de nos frères et sœurs, et même de notre relation avec notre Père Céleste. Galates chapitre 6. Est-ce que nous passons notre temps à semer le bien? C'est cet aspect de travail, cet aspect de responsabilité de chacun d'entre nous. Galates chapitre 6 et le verset 7. Paul écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères, en la foi. » L'apôtre Paul ici parle de la semence. Nous avons chacun d'entre nous un choix. Est-ce que nous allons semer le bien, nous allons semer le mal, ou peut-être un troisième choix, est-ce que nous allons semer rien du tout? C'est à nous de choisir, c'est à nous de s'impliquer, nous de nous impliquer dans l'œuvre. Continuons avec un autre exemple, 1 Pierre 4, nous parlons de la fortification de l'Église, de la santé spirituelle de l'Église. Et l'Église peut croître si nous sommes liés les uns aux autres et si nous travaillons ensemble sans se focaliser sur nos différents, sur les choses qui nous divisent, l'Église peut profiter. 1 Pierre 4 et le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Des fois, nous avons la tendance à nous servir nous-mêmes avant de servir les autres. Il est important de garder en tête qu'un don a été donné, que tout ce que nous avons a été donné par Dieu. Une troisième leçon, nous passons par l'humilité pour arriver à la gloire. Nous passons par l'humilité pour arriver à la gloire. Reportons-nous maintenant à Jérémie, chapitre 9. Jérémie, chapitre 9. Jérémie, chapitre 9 et le verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exercice la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous devons attendre la gloire. Nous ne la cherchons pas aujourd'hui. Jésus nous a montré le chemin pour arriver à la gloire, le bon chemin de l'humilité. Le monde autour de nous n'est pas d'accord. Le monde nous offre la gloire aujourd'hui, la gloire instantanée. C'est ce que le diable a offert à Jésus au désert. Rappelons-nous Matthieu 4 et le verset 8. Matthieu chapitre 4 et le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ce n'était pas le bon chemin. Jésus a choisi le chemin d'humilité. N'oublions pas qu'il s'est humilié lui-même. C'est Jésus qui a choisi de servir. Il a servi avec toute l'humilité. Dans l'histoire que nous avons examinée aujourd'hui, Jean chapitre 13, les disciples n'avaient pas encore vu la souffrance de Jésus jusqu'à la mort. Ils pensaient que l'établissement du royaume de Dieu sur la terre aurait lieu pendant leur époque. Passons maintenant à Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 et le verset 5. Nous voyons ici le chemin qui mène à la gloire, mais qui passe par l'humilité. Et c'est Jésus qui a montré l'exemple. Philippiens chapitre 2 et le verset 5. Ayez en vous les sentiments, ou nous pouvons lire les pensées, la pensée, qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Encore une fois, nous voyons le thème ici d'obéir, d'obéissance. Jésus a obéi jusqu'à la mort. Il n'a pas choisi le bon moment pour s'enfuir, pour quitter ce plan que le Père avait mis en place. Non, il est resté fidèle. Le fait que Jésus nomme et inspire ses apôtres ne veut jamais dire qu'ils sont plus grands que lui, mais il nous promit tous la vie éternelle si nous sommes les siens. Romains chapitre 8. Encore une fois, nous passons par l'humilité pour arriver à la gloire. Et c'est pas de nous la gloire. La gloire que nous allons recevoir, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé nous-mêmes. La gloire que nous allons recevoir au retour de Jésus-Christ, c'est une gloire qui sera donnée à ceux qui resteront fidèles. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Jésus nous a préparé le chemin, mais c'est un chemin qui passe par l'humilité pour arriver à la gloire. Dans la famille de Dieu, nous avons l'opportunité de devenir des enfants de Dieu, vraiment des enfants de Dieu, qui ressemblent à Dieu, qui ont la même gloire qui est donnée par Dieu. Passons maintenant à Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, pour continuer à parler un petit peu de ce plan magnifique. Hébreux, chapitre 2. Souvent, nous lisons le verset 10 tout seul, mais aujourd'hui nous allons commencer avec le verset 9 pour voir jusqu'à quel point Jésus nous a montré la bonne voie qui mène à la vie, mais qui passe par la souffrance, par l'humilité. Hébreux chapitre 2 et verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevés à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Pour conclure, après le lavement des pieds, Jésus institua deux symboles nouveaux, profondément significatifs à la Pâque du Nouveau Testament, le pain et le vin. Il est intéressant que le lavement des pieds ait lieu en premier. Les relations entre les uns et les autres sont très importantes pour l'Église et pour les individus. Au retour de Jésus-Christ, il n'y aura plus de disputes entre les disciples. Qui est le plus grand? Qui va régner ici ou là? Peu importe. Pour terminer, reportons-nous encore une fois à Luc chapitre 22. Nous avons commencé à examiner ce sujet avec ce passage. Luc 22. Au retour de Jésus-Christ, les prémices ne diront pas « Où est ma trône? Quel rang suis-je ?» Ils seront contents d'entendre la voix du roi des rois qui dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez position du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 22 et le verset 28. « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Frères et sœurs, prenons le temps de méditer à notre propre humilité dans nos préparations pour la Pâque et la fête des pains sans levain.